Susanna Nicarelli, bonjour. Donc nous voilà à Venise, 2 ans après Nico 1988, primé ici à la Mostra. Est-ce qu'il y a un avant et après le prix vénitien?
Oui, parce que en fait j'avais tellement peur. Je me rappelle quand on est venu ici pour présenter les films, et là j'ai encore le souvenir de quand j'ai dû revenir pour prendre le prix, et c'était super. Et bon, alors.
Est-ce que pour une réalisatrice, ça amène des propositions, des contacts?
Ça donne une certaine sûreté, hein, de soi-même. Pas trop, parce que quand même, j'ai peur du nouveau film, j'ai peur de ne pas arriver à avoir les satisfactions que j'ai eues de Nico. J'y pense tout le temps à ça. Je pense, est-ce que ça sera mieux, est-ce que ça ira mieux que Nico, ou pas assez, pas bien comme Nico. Tu y penses tout le temps, t'as peur du futur. Mais c'est vrai que recevoir un prix est quelque chose qui te fait sentir que tout ce que tu as fait a un sens.
Le soir, quand tu avais la statue en main, oui, c'était quand même un grand moment.
Oui, parce que en fait, notre travail est un travail, c'est un peu comme le sport. Mmh. C'est fait de ces compétitions. Et si on gagne, on gagne. Et aussi, ce qui est beau aussi de recevoir des prix, c'est la satisfaction que tu donnes aux gens qui ont travaillé, ou participé au film. Les gens qui l'ont financé, les producteurs, mais aussi les acteurs, les techniciens, c'est une chose que tu gagnes pour
l'équipe.
Ouais. Et ça donne beaucoup de satisfaction.
Alors Trine Derhorn, qui était donc la comédienne de Nico, était membre du jury l'année dernière.
Oui.
Et ici, Susanna, vous êtes présidente d'Horizonti carrément là, cette année. C'est un peu comme l'élève qui devient professeur et qui donne des prix là.
Oui. C'est un honneur, c'est encore plus que recevoir un prix. Le fait qu'il te donne la possibilité d'en donner, c'est un honneur encore plus important. En plus, c'est bien parce que je dois tourner un film dans 2 mois et ça me fait du bien. Je vois 4 films par jour et c'est intéressant parce que je vois... je peux avoir des idées, je peux réfléchir sur ce que je veux faire. Et donc, c'est un privilège d'avoir autant de temps pour voir des films et pour réfléchir.
Alors justement, le projet Mrs. Marx, donc c'est Éléonore, la fille de Karl Marx, qui sera le sujet principal. De quand date ce projet?
Alors c'est Miss Marx.
Miss Marx.
Parce que Éléonore, elle s'est jamais mariée. Elle est restée Miss Marx toute la vie, même si elle avait un copain. Avec lequel elle est allée habiter quand elle avait déjà presque 30 ans. Et c'était... Moi, ce projet date de... Peut-être... après Nico, j'ai lu... Après la sortie de Nico, j'ai lu son histoire. Oui, peut-être un an et demi, pas plus. Mmh. J'ai lu son histoire et j'ai été... vraiment bouleversée par cette histoire. Moi, j'ai étudié de la philo, donc je connais bien Marx, et je savais rien de sa vie privée. Et quand j'ai su qu'il avait eu une fille qui, en fait,
c'est qui a fait de la politique,
qui a fait de la politique, mais ça a été une politicienne extrêmement importante parce qu'elle a fait des luttes pour les ouvriers et pour les femmes qui ont été très importante dans l'Angleterre de fin 19e. Mais ce qui m'a frappée, c'était la contradiction avec sa vie privée, parce qu'en fait, elle était une grande féministe, une femme de caractère, mais elle avait une relation sentimentale qui était complètement déséquilibrée. Elle avait cet homme qui ne valait... absolument la valeur d'Éléonore. C'était un homme assez médiocre, c'était un peu acteur, comédien, politicien aussi, mais pas de...
L'envergure.
Et qui l'a traitée extrêmement mal, qui profitait d'elle, qui lui mentait. Et donc, j'ai trouvé ça très ironique. Et j'ai trouvé qu'avec cette histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour et de politique, mais avec cette histoire, on pouvait raconter un peu la contradiction et les contradictions de la vie réelle. Parce que normalement, quand on écrit dans le cinéma, on travaille toujours sur la cohérence des personnages, tandis que les vraies personnes sont complètement contradictoires et beaucoup plus folles et imprévisibles.
Encore une femme forte. Qu'est-ce que ça vous inspire, les mouvements MeToo, 50-50 de Thierry Frémaux à Cannes ou,
Je crois que soit Nico que Eleanor ne sont pas des femmes fortes dans la conception traditionnelle qu'on pense à ça. Parce que même la notion de femme forte est une notion dangereuse, parce que femme forte, alors on pense c'est une femme qui est très masculine, souvent on pense, ou bien on donne des définitions de femme forte qui sont des cases dans lesquelles on veut mettre les gens et les personnages, et qui ne correspondent jamais à la réalité. Et ce sont des personnages très complexes, soit Nico que Eleanor Marx. Et ce qui m'étonne, c'est de raconter la complexité. Parce que normalement, les femmes, surtout par les hommes, sont racontées d'une façon très superficielle. Parce qu'au centre des films, il y a toujours les hommes. Et les personnages des femmes, souvent, sont des caricatures. Sont la mère hystérique, la femme jalouse, ou je ne sais pas. Elles sont assez bidimensionnelles. Tandis que moi, j'ai choisi de raconter des personnages qui ont des couches qui sont très complexes. Et pour ça, elles sont surprenantes. Surprenante par rapport à ce qui est raconté normalement, et surprenante par rapport à ce qu'on voit dans tous les moyens de communication. Parce qu'il y a une image de la femme, et là je réponds à la question sur le MeToo et tout ça, et il y a encore dans cette société, il y a une image de la femme qui est... Et qui ne lui rendent pas justice, je veux dire,
caricaturé.
Oui, et encore les désirs des hommes sont au centre, les désirs, et donc c'est justifié qu'un homme puisse désirer une femme beaucoup plus jeune. C'est justifié que dans un film, tu vois toujours des actrices dans la trentaine, et l'homme, le copain, peut avoir 50, 60 ans, et c'est même pas dit dans le scénario qu'il y a 25 ans de différence. C'est normal, c'est considéré. Et on voit très peu les femmes, les actrices qui ont plus de 40 ans, on les voit très peu au centre d'une histoire. Donc je crois que c'est surtout intéressant qu'il y ait plus de femmes réalisatrices, que les jeunes filles apprennent qu'elles peuvent faire ce métier aussi, parce que c'est pas un métier d'homme. Mais c'est aussi très importante la façon dans laquelle on raconte la femme. Là par exemple, aujourd'hui c'est le jour de... hier, c'était le jour d'Almodovar qui a pris le Lion d'Or à la carrière. Ça, c'est un homme qui a raconté les femmes d'une façon extraordinaire. Donc, je ne dis pas que nécessairement il faut que ça soit une femme à raconter les femmes. Mais c'est vrai qu'il nous faut que notre image change. La façon de montrer l'image de la femme change.
Alors, c'est encore une reconstitution d'une époque, un peu comme Nico aussi. Ce sont des challenges qui ne vous font pas peur,
Non, c'est ça. Ça, c'est le truc que j'aime faire. J'ai toujours fait des films d'époque. J'ai jamais fait... Mon premier film était dans les années 60. Et, Et puis, années 80 avec Nico et maintenant, 19e siècle. Et le 19e siècle est difficile. En même temps, moi, j'aime beaucoup faire des films dans le passé parce que c'est un exercice pour tout le monde, pour toute l'équipe, mais même pour le public d'entrer dans la salle et la lumière s'éteint et tu fais un voyage dans le temps. Et moi, j'aime beaucoup faire ça aussi parce que j'ai l'impression que ça rend les choses un peu plus absolues. Voir qu'il y avait, si on traite des contenus très modernes dans un contexte plus ancien, c'est une façon de les universaliser. Tandis que souvent, la contemporanéité, je donne un portable à l'acteur et après un an, déjà ce portable est daté. La contemporanéité se date très rapidement. Et ils conduisent une voiture dans le film, la voiture déjà s'est datée, tandis que si tu vas dans le passé, tout est figé d'une certaine façon, et donc tu fais des comptes absolus.
Alors, est-ce qu'il y aura aussi, un peu comme dans Nico, des flashbacks comme Jonas Mekas que vous avez utilisé, est-ce qu'il est prévu aussi des images d'archives ou...
Oui, absolument, parce que les images d'archives ne sont pas filmées parce qu'il n'y avait pas le cinéma encore. Mais oui, parce que la réalité fait toujours partie de ces histoires, parce que surtout par rapport à la lutte politique d'Éléonore, parce que la condition des ouvriers dans le 19e siècle était, on le sait, était horrible, et je crois que en parlant de ça, en nous rappelant de ça, on repense aussi à la condition de beaucoup d'ouvriers aujourd'hui, de femmes, des enfants qui travaillent encore, même si c'est pas en Europe, c'est le cas encore. Et donc, je crois que les images d'archives des industries du 19e siècle ont elle aussi une modernité incroyable, une référence à l'aujourd'hui et une puissance particulière.
Alors pour Léonore, vous avez choisi Romola Garay, beaucoup de télé, et puis elle a tourné Suffragette. Ça vous a inspiré,
oui,
ça?
Bah, elle a tourné Suffragette, mais elle n'était pas protagoniste. Non, Suffragette, c'est un film que j'ai pas trop aimé en fait, parce que c'était très... C'était un film très didactique. Et tandis que là, on va faire tout le contraire, parce que la façon dans laquelle j'imagine l'histoire d'Éléonore, et on peut... Je voudrais faire au genre du film d'époque ce que j'ai fait avec le biopic dans Nico. Je voudrais un peu bouleverser le genre et refaire le film d'une façon beaucoup plus moderne. Je ne veux pas faire un film traditionnel dans le 19e, parce que c'est la modernité du message qui m'intéresse et pas l'aspect didactique de la reconstruction historique. Ça m'intéresse beaucoup moins.
Alors bon, on parlait quand même un peu gros sous. On a un peu de Belgique dans le film, puisque c'est Tarantula qui est votre producteur, avec Joseph Proskop, et qui sera cofinancé par Wallimage. C'est la deuxième fois que vous travaillez avec cette équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, finalement.
Oui.
Comment ça se fait? C'est vous qui êtes venu les revoir en disant « Tiens, j'ai encore un nouveau projet » ou c'est eux qui vous ont demandé « Est-ce que vous avez un nouveau projet ?»
On a commencé à en parler déjà quand il y avait la sortie du film en Belgique. On s'est revus. On s'était revus à Cannes. On s'était revus plusieurs fois pendant les l'année dans laquelle Nico est sorti. Donc j'ai parlé tout de suite avec eux, avec Joseph et Valérie, de mon projet, et c'était automatique qu'on aurait fait quelque chose d'autre ensemble. Et ils l'ont lu de la première version que j'ai écrite avec les producteurs italiens aussi, et j'ai l'impression que Nico nous a liés beaucoup, et donc c'était automatique de parler du projet En plus, moi, j'ai beaucoup aimé tourner en Belgique parce que j'ai beaucoup aimé les décors. On a trouvé des choses extrêmement intéressantes. Et déjà là, on est en train de trouver des choses très, très intéressantes pour ce film aussi. Je crois que la Belgique est... Mais quand même, beaucoup, beaucoup de films sont tournés en Belgique dans cette période-ci. Et je crois qu'il y a... c'est un pays qui offre...
Il y a Jean-François Tefnin là qui de Clap qui spécialiste des lieux de tournage comme ça. Oui. Vous avez été faire le tour avec lui de
non en fait moi, nous on a le scénographe comment ça se dit en français le scénographe le production designer.
Ouais, production designer.
Oui, ouais. c'est un de nos production designers et Igor Gabriel. Qui est très talentueux et qui et avec lui aussi le rapport il est wallonien oui et avec il parle italien parce qu'il est d'origine italienne et avec lui c'était pour Nico c'était un rapport qui a fonctionné très très bien et encore cette fois-ci et ça fonctionne bien pendant qu'on prépare le film et oui.
Mais donc, on rappelle, Miss Marx, dans 2 mois alors, le début du tournage ?
Oui, dans 2 mois. Oui.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci.